Bonjour, c'est la chronique européenne de Geneviève Saint-Hubert pour le Centre d'information Europe Direct de Toulouse-Occitanie et de sa Maison de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur Radio Occitanie, bien sûr, pour la troisième partie de cette conférence de presse que nous avons suivie pour vous à l'occasion du déplacement de Pierre Moscovici, qui est, je vous le rappelle, donc commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l'union douanière. Il a fait les 26 et 27 février dernier une visite en Occitanie, autour de Toulouse et autour de Montpellier. Au programme donc la transition énergétique, la transition démocratique et la transition sociale. Donc sur ces thèmes, il s'est exprimé aux côtés de Carole Delga, président de la région Occitanie, et cette dernière partie donc va vous faire découvrir les questions que les journalistes avaient à leur poser.
Oui, moi je suppose que le discours de Mme Delga au sujet de l'Europe vous fait plaisir et confirme votre engagement, vous.
Ah mais totalement. Je pense que c'est le discours d'une élue moderne, d'une élue engagée, d'une élue humaniste, d'une élue qui a compris à quel point les territoires ont besoin de l'Europe et l'Europe des territoires. Et j'aimerais que ce soit le cas partout. Parce que c'est vrai que je souffre parfois de voir mon pays, la France, auquel je suis vraiment passionnément attaché, avoir avec l'Europe une relation compliquée, une relation passionnelle, même si parfois frustrée, mécontente. En France, on aime bien l'Europe, mais à condition que ce soit comme la France en grand. Alors que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est une construction en soi, qui est à l'écoute, mais vers laquelle on doit aussi aller. Et je pense que l'attitude des élus régionaux, l'attitude de Carole Delga est la bonne, encore une fois. Et moi, ça me réjouit particulièrement, en effet, parce que c'est ma conception de l'Europe. Je ne veux pas d'une Europe tour d'argent. Je ne veux pas d'une Europe qui soit lointaine. Je ne veux pas d'une Europe qui soit éloignée de ses citoyens et de leurs préoccupations. Je ne veux pas d'une Europe trop sûre d'elle. Je souhaite une Europe qui soit à l'écoute et d'une Europe qui soit aussi capable d'échanger avec ses territoires. Je ne suis pas un Européen. Je ne crois pas que tout aille bien. Mais je pense que quand les hommes et les femmes de bonne volonté dans les territoires et au niveau européen, sans oublier l'État, mettent leurs forces en commun, alors ça produit d'immenses résultats. On doit être très fiers des Européens. Moi, je représente la Commission européenne, au G7, au G20, au Fonds monétaire international, dans les grandes institutions financières internationales. Eh bien, quand j'y suis, je porte la parole de la première économie du monde avec les États-Unis. Et une économie qui n'est pas qu'une économie, qui est aussi un modèle social, qui est attaché à la réduction des inégalités, qui refuse toutes les discriminations de toute forme, qui valorise les droits de l'homme, qui accepte l'égalité d'abord entre les hommes et les femmes. Et ça, être européen, c'est un bien commun que nous ne devons pas dilapider ou laisser dilapider.
Est-ce que vous croyez que l'Europe met la meilleure volonté pour justement être proche des citoyens et lutter contre ce que vous avez appelé tous les deux le populisme?
Il faut mesurer ce que c'est l'Europe. Moi, je suis assez mal à l'aise avec ce mot, au sens où certains pourraient penser l'Europe, c'est Bruxelles, l'Europe, c'est la Commission européenne, l'Europe, c'est le Conseil européen, l'Europe, c'est les institutions européennes, c'est le Parlement européen. C'est vrai. Je tiens à saluer Virginie Rosière, ici, qui est une parlementaire européenne très ardente, et c'est faux. Parce que l'Europe, c'est nous tous, en fait. L'Europe, elle est faite de ses États, elle est faite de ses régions, elle est faite de ses citoyens. Et si on se sent soi-même à l'écart de ce qui est encore une fois un bien commun, on n'arrive pas à le valoriser. Et c'est de l'interaction entre les différents niveaux que naît le sentiment européen. La Commission européenne est une institution qui, paradoxalement, a peu de moyens. Le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB de l'Union. Et je souhaite qu'il augmente. Il faudra qu'il augmente. Parce qu'on ne peut pas vivre dans l'après-Brexit avec un budget à 1%. J'ai vu que les chefs d'État et de gouvernement s'étaient réunis à la fin de la semaine pour dire au moins 1,1. 1,1 plus quelques centièmes de pourcent, c'est le minimum si on veut être capable de mener des politiques qui aient du sens. Et donc, c'est encore un budget faible. C'est une institution qui, finalement, est assez peu bureaucratique, paradoxalement. Elle a peu de fonctionnaires. Il y a 33 000 fonctionnaires à la Commission, il y en a 40 000 à la mairie de Paris. J'ai été ministre des Finances, il y en a 162 000 au ministère des Finances. Vous voyez un peu les proportions. Et donc, il faut aussi aller chercher l'Europe. Et il ne faut pas à tout attendre en termes de communication, en termes d'ingénierie. Il faut aller frapper à la porte avec ses projets. La bonne façon pour une région de se faire valoir en Europe, c'est d'avoir des projets, de les porter, de les valoriser et de les co-construire avec l'Union européenne. C'est ce que la région Occitanie a fait. Et c'est notamment ce que ce bureau à Bruxelles lui permet, je crois, de faire encore mieux.
Justement, sur les projets de LGV, sous réserve évidemment que l'État français les sélectionne tous, qu'est-ce que l'Europe peut faire au-delà de la connexion, parce que là, ça rentre dans le chapitre européen, il y a une connexion avec un pays, avec l'Espagne, qui nous concerne. Et même s'il n'y a pas de connexion avec l'Espagne, est-ce que ça peut rentrer dans le plan nucléaire et comment, quel est le mécanisme aussi pour ce type de grand projet?
Alors, d'abord, le plan Juncker est un plan qui est un plan qui a été commencé en 2015 et qui dure jusqu'en 2020. Et si j'ai bien compris, les projets dont vous parlez sont à un peu plus longue échéance. Là-dessus, je vais être un peu prudent parce que c'est les pouvoirs publics nationaux qui décident de la politique ferroviaire. Je comprends tout à fait, connaissant aussi la région, le souci des élus d'aller vers un désenclavement et de pouvoir se rapprocher des centres de décision français et européens. C'est vrai qu'il y a quelques paradoxes à constater que c'est une des régions, sinon la région la plus dynamique en France, et celle aussi où le taux d'éloignement est le plus élevé, et Carole Delga en parle extrêmement bien. Mais, encore une fois, c'est aux pouvoirs publics nationaux de le faire. Pour ce qui concerne l'Union européenne, nous valorisons bien sûr les interconnexions et le fait d'avoir des transports, notamment à grande vitesse, qui soient transfrontières. Mais le respect du rythme et du financement ne dépend pas de l'Union européenne. En rien.
Monsieur le commissaire, on est toujours en train de chercher 3 francs sous pour des projets d'intérêt public, et en même temps, on a vu donc le scandale financier de l'évasion fiscale. Donc là, il y a eu la réaction de Bruxelles qui a paru contrastée, positive, et puis les choses ont eu l'air de s'enliser un petit peu. Où en êtes-vous aujourd'hui de cette lutte qui paraît quand même fondamentale? L'argent, il existe quelque part. Encore faut-il savoir le retenir pour pouvoir l'investir dans les territoires.
Si vous me donnez 2 petites heures, je peux vous expliquer au moins. Je ne suis pas sûr qu'on les ait tout à fait. Il se trouve que je suis le commissaire à l'économie, aux finances, mais aussi à la fiscalité et à l'union douanière. Et je dirais que la chose dont je suis le plus fier, et celle à laquelle j'ai consacré le plus d'énergie probablement, à côté du sauvetage de la Grèce, depuis 3 ans maintenant, et un peu plus, c'est la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Le monde a complètement changé. La moralité, l'éthique mondiale a changé. Jusqu'en 2012, cette question était une question qui, en réalité, laissait les États de l'Union européenne totalement indifférents. Totalement. Ou presque totalement. Il y avait toujours un pays pour bloquer des progrès en la matière. Mais depuis 2012, on est entré dans une nouvelle ère. Et les scandales qui ont aidé, c'est-à-dire que ce qui a pu choquer la conscience publique, a agi pour débloquer les décisions internationales. Et le G20, l'OCDE, l'Union européenne ont, depuis 2012, fait de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale une priorité. Avec un mot d'ordre qui est totalement le mien, dans un contexte de crise, nos concitoyens ont été amenés à mettre la main à la poche pour réduire les déficits. Ils ne supportent pas, et ils ont raison, que les entreprises multinationales, parce qu'elles sont armées une flopée de conseils de toutes sortes, financiers, juridiques, fiscaux, parce qu'ils peuvent bénéficier de législations qui sont des passoires, ici ou là, ou qui sont exagérément favorables à l'optimisation fiscale. Ils ne supportent plus que ces multinationales ne payent pas d'impôts là où elles créent des profits et de la valeur. Et tout ce que j'essaie de faire depuis 5 ans va dans ce sens-là. Et je suis très fier que depuis 3 ans, on ait fait plus que dans les 20 précédentes années. Je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, il n'y a plus de secret bancaire en Europe. Un grand procès s'est tenu la semaine dernière. Celui d'une personnalité que j'ai bien connue et que j'ai souffert de côtoyer. Mais aujourd'hui, une telle affaire ne serait plus possible, grâce à ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations sur les comptes bancaires, avec la Suisse, Saint-Marin, Andorre, le Liechtenstein ou Monaco. Ça n'existe plus. On a fait voter deux directives de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale qui permettent en effet d'avoir un taux effectif d'imposition sur les sociétés, donc un taux non nul, dans toute l'Union européenne pour les multinationales, quelles qu'elles soient. Ma collègue Margaret Vestager a imposé, vous parliez de 3 francs 6 sous, des reconstitutions dues d'impôts de 13 milliards d'euros pour une entreprise, Apple, sur un pays. Non pas parce que le taux d'imposition en Irlande est faible, 12,5%, mais parce que l'entreprise payait 0,05%. Nous avons aussi obtenu que les entreprises échangent leurs données comptables et fiscales entre administrations fiscales. On a déjà fait beaucoup de progrès. Il en reste beaucoup à faire. Et j'ai encore quelques propositions dans la besace. Je vais les citer. Je souhaite d'abord qu'on puisse taxer l'économie du numérique à hauteur des profits qu'elle réalise, les fameux GAFA. Et je ferai, dans un mois d'ici, le 21 mars, des propositions précises dans ce sens pour que les géants du net aient une taxation qui soit comparable à l'économie, autre ou normale. Aujourd'hui, Internet paye 9% d'impôts, là où la moyenne de l'imposition des sociétés, des autres sociétés, est de 23%. Ça n'est pas normal. Nous avons proposé une taxation adaptée. Deuxièmement, il faut enfin qu'on avance vers une forme d'harmonisation fiscale avec ce qu'on appelle la base fiscale, l'assiette fiscale commune et consolidée au niveau de l'Europe, que les grands groupes payent leurs impôts au niveau européen et que ce soit de la même façon dans tous les pays de l'Union, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je propose enfin, pour vous donner quelques exemples, que les intermédiaires, les avocats, les banques, les conseillers fiscaux, déclarent aux administrations fiscales les montages de planification fiscale ou d'optimisation fiscale qu'ils vendent à leurs clients, ce qui d'ailleurs, je pense, les dissuadera fortement. Enfin, je souhaite que la démarche dite de liste noire et de liste grise, c'est-à-dire des pays qui prennent des engagements pour améliorer leur conformité aux standards internationaux, que ce processus soit rendu efficace. Et pour ça, je fais deux demandes. La première, c'est que les engagements pris soient rendus publics, que chacun puisse les vérifier. Et la deuxième demande, c'est qu'il y ait des sanctions pour les pays qui sont sur la liste noire. Je sais bien que le combat contre la fraude et l'évasion fiscale, c'est un combat qui ne s'arrête jamais, que l'imagination des fraudeurs est sans limite. Mais même que ceux qui veulent optimiser leur impôt sont également à l'œuvre avec beaucoup d'imagination. Mais je pense que nous sommes en train de mettre des outils qui n'existaient pas auparavant. Le combat n'est pas gagné, mais il est enfin entrepris. Et de ça, en effet, je suis fier, et ça permettra, croyez-moi, de gagner plus de 3 francs 6 sous. Et c'est ce que nos trésors publics ont fait aussi. Quand j'étais ministre des Finances, on a mis en place des dispositifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale qui ont permis de rapporter aux trésors publics, dans une période de crise, plus de 2 milliards d'euros par an. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. C'est une priorité absolue de l'action européenne, telle que je la mène. Je souhaite que ce soit encore le cas dans les années qui viennent. Pardon, j'étais à la fois court et long.
D'autres questions ?
Sur le fonds Forster, on pourrait expliquer un petit peu le mécanisme qui est quand même assez complexe.
Alors, sur les 5, pour faire simple, sur les 143 millions, 83 amenés par l'Europe, 60 par la région. Et donc, le fonds Foster, c'est un fonds qui permet d'amener des garanties bancaires, de l'investissement aussi au niveau des entreprises. Donc, c'est vraiment pour nous une spécificité, puisque Foster s'applique également à des entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire et de la viticulture. Donc nous sommes là pour l'instant la seule région en Europe qui a cette possibilité avec le FEI. Donc c'est vraiment un outil financier, si vous préférez, pour pouvoir décupler l'investissement de l'ensemble des entreprises, l'accès aussi au crédit bancaire, et également l'investissement dans tous les dispositifs d'innovation de recherche. Pour faire court.
Est-ce que
Il y avait une dernière question.
Est-ce qu'il y a des projets ou quelque chose qui va se mettre en place concernant les crypto-monnaies et toute la spéculation qui va se développer?
Nous observons de près la montée des crypto-monnaies avec avant tout un réflexe de prudence et un conseil de prudence. Car il apparaît en effet que ce sont des instruments hautement spéculatifs et extraordinairement fragiles. Mais certains gouvernements, dont le gouvernement français, ont demandé qu'il y ait des régulations qui soient mises en place au niveau international. Ils sont tournés vers le G20 pour aller dans ce sens-là, vers le G7 également. Et nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques jours d'ici, dans une réunion qui se tiendra à Buenos Aires, des ministres des Finances du G20. Mais avant toute chose, je pense qu'il faut mettre ce phénomène à sa place, qui est un phénomène essentiellement spéculatif, hautement fragile et extraordinairement volatile, qui n'est pas à ce stade une menace de remplacement pour nos monnaies, à commencer par l'euro, qui est une sécurité puissante pour ceux qui le partagent.
Et bien voilà, donc la semaine prochaine on se retrouve pour la séance de questions qu'ont posé les journalistes sur place à Carole Delga, présidente de la région Occitanie, et Pierre Moscovici, commissaire européen. Et dans cette attente, je vous dis à bientôt, tchuss, ciao, bye, adi chats.